Un sol majeur.
Elle a lu Tolstoï, Dostoïevski et Victor Hugo en arabe. Arabe est Salwa Al-Naïmi, née quelque part dans le sable des années 50, mais chut, pas un mot sur ses multiples épines. Elle est coquette comme une rose des sables. Coquette et d'abord arabe, avant d'être syrienne. Française, ensuite et très vite, puisque toute petite, elle s'imaginait vivre en haut de la tour Eiffel. Salwa El-Naïmi, c'est pas vrai ? C'est vrai, non ? J'invente rien. Salwa El-Naïmi a toujours eu le sens de la hauteur, le septième ciel à portée de plume. La preuve par le miel chez Robert Laffont, ou comment une intellectuelle arabe se passionne en secret et en sol majeur pour l'étude des traités érotiques arabes anciens.
J'arrivais chez lui mouillé. Il glissait son doigt entre mes cuisses pour y cueillir le miel, comme il l'appelait. Il le goûtait, puis m'embrassait en fuyant au plus profond de ma bouche. Je lui disais, « Il est clair que tu appliques les commandements du prophète et que tu suis son exemple. Aucun de vous ne doit prendre sa femme comme le font les animaux. Que des messagers s'interposent entre vous, le baiser et la parole. » Et Aïcha, l'épouse favorite du prophète, a dit « Lorsque le messager de Dieu embrassait l'une d'entre nous, il lui suçait la langue. Comment pourrais-je renier cet héritage ?»
Alors voilà, preuve par le miel que le monde arabe, Salwa El-Naïmi, a été libre et qu'il le sera peut-être à nouveau.
Il faut faire tout pour. Ce sont j'ai écrit la preuve par le miel pour dire que on était libre. On est peut-être pas seulement pour parler du sexe. C'est-à-dire moi je prends le sexe parce que peut-être le sujet le plus facile, je ne sais pas.
Ah non, en tant qu'arabe, c'est peut-être le moins facile, je dirais, non, aujourd'hui en tout cas.
Mais on peut prendre la philosophie, on peut prendre les sciences, on peut prendre tout et voir comment les courants politiques, philosophiques, c'est-à-dire vivaient ensemble, religieuses aussi, cohabitaient ensemble, vivaient ensemble, et comment la liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté était dans nos sociétés. Moi, c'est-à-dire quand je mets des citations de ces textes-là, c'est pas pour dire il faut revenir en avant, c'est pas pour sacraliser un temps, mais pour m'inspirer de cette liberté de dire que notre culture, elle est libre. C'est pas comme on répète toujours que la culture arabe, elle est répressive, la culture arabe, elle est austère, la culture arabe, elle méprise la femme. Moi, qui lis les textes anciens, je dis, c'est pas vrai. C'est-à-dire, je le dis le plus simplement possible. Je dis, regardez.
Relisez votre histoire.
C'est ça.
Donc, il n'y a pas que des arabes terroristes, il y a aussi des arabes qui font l'amour. Hein, parce que depuis le 11 septembre 2001, l'image,
c'est l'image qu'on essaie de véhiculer. Mais moi, je dis, non, notre culture, c'est pas ça, notre culture, c'est autre chose. Et voilà une petite contribution peut-être pour dire que ma langue, elle est vivante, ma culture, elle est vivante.
D'accord. On va continuer cette confession libertine avec une certaine Juliette Gréco, car dans votre programme, vous ne pouviez louper le fameux Déshabillez-moi.
Oui, non, moi j'adore Gréco. J'ai choisi Déshabillez-moi. J'adore toutes ces chansons. Oui. Mais c'est un clin d'œil, bien sûr, parce que...
Vous la préférez quand même déshabiller, cette Juliette. Hein.
Elle est plus belle.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. paraît lude ne doit pas être rude. Niagara, dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse, et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis, frémissant et affecte, de votre main experte. Allez-y.
Ça va être la castration suprême sur RFI. Déshabillez-moi de bonne aloi, vous aimez ça. Hein.
J'adore.
Être violée un tout petit peu aussi, je sens.
Non, jamais.
Non, mais je, verbalement, c'est tout ce que je voulais dire. Donc avec la scandaleuse Gréco, Juliette pour les intimes, l'existentialiste pour les très très intimes, c'est le choix de Salwa Naimi, intellectuelle syrienne qui se passionne pour la littérature arabe, mais aussi pour les Victor Hugo et autres René Char. Sur la première carte postale qu'elle envoie à ses parents restés à Damas, elle écrit noir sur blanc, on dirait que je suis née au deuxième étage de la tour Eiffel.
Est-ce que vous portez un objet qui a un lien avec vos origines ?
Non, en général, sauf si on considère un livre arabe. Parce que j'ai toujours un livre en arabe, en français ou bilingue.
Vous n'êtes pas un cliché de femme arabe, en fait.
Ah ben, c'est ça, justement. Peut-être que j'ai écrit mon livre. Pour ce moment, j'écrivais des poèmes. Et à travers les poèmes, je disais ce que je dis dans La preuve par le miel. Mais personne ne lit la poésie. Donc, j'étais un peu obligée. Non, je plaisante. C'est-à-dire, quand j'ai écrit ça, noir sur blanc, c'est-à-dire ouvertement, parce que la prose est plus scandaleuse peut-être. Donc quand j'ai écrit ce que je dis toujours, c'était le scandale dans le monde arabe. Mais pour moi,
c'est quoi le cliché que l'on peut avoir de la femme arabe?
Les clichés, d'abord que la femme, il n'y a pas la femme arabe, une femme arabe, il n'y en a pas. Il y a des femmes arabes et chaque femme arabe porte son histoire, porte son itinéraire, porte la femme arabe soumise, la femme arabe qui veut même pas être libre, qui a tellement intériorisé la soumission qu'elle revendique même pas sa liberté, ou si elle est libérée, c'est seulement à travers la culture occidentale.
Vous êtes un spécimen quand même. Nous, on a envie, après avoir lu La preuve par le miel, on a un petit peu envie que vous ressembliez au personnage de ce roman. Donc, on vous imagine un peu libertine, pas féministe pour un sou.
Si, au contraire.
Vous revendiquez bout des lèvres, si je veux dire.
Mais le plaisir, le féminisme ne veut pas dire nier le plaisir. Cette image aussi du féminisme, c'est un cliché. Je dis une féministe, ça veut dire que c'est une femme indépendante, c'est une femme qui revendique son corps aussi, c'est-à-dire sa liberté, son corps, son tout, c'est-à-dire c'est un tout pour moi, et ce que j'écris dans le livre, c'est pas dissocié, ma tête ou mon corps, c'est un, je suis mon âme, mon corps c'est mon âme, c'est-à-dire, et une féministe, moi je me considère comme féministe.
Pourtant, vous feriez hurler certaines féministes.
Peut-être.
À la lecture de ce roman. Et polygame dans l'âme. Vous l'êtes, non ?
Bah, je crois que tout le monde, toutes les femmes le sont, les hommes et les femmes. C'est-à-dire, les hommes, ils peuvent dire ça ouvertement, mais nous, on nous a appris à dire je suis fidèle, je suis. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, même dans l'imagination, mais il y a des femmes peut-être qui n'osent pas le dire ou qui n'osent pas passer à l'acte. En vérité, je crois que l'être humain. Et polygame, lisez-le en frais.
Vous souhaitez écrire une lettre à votre chérie. Dans quelle langue écrivez-vous l'amour?
Bah, ça dépend de quel chéri.
Ah, voyez, ça commence comme ça avec Salwa et Naimi. Je vous présente quand même. Non, l'arabe est la langue du sexe. Je vous cite.
S'il est arabe.
C'est pas grave. C'est un détail. Est-ce qu'il a besoin seulement de comprendre? Salwa.
Non, mais je dis l'arabe, et tout le monde a repris cette phrase, mais la narratrice, elle est arabe. Donc, et moi, quand je vois que les arabes, quand ils veulent parler, même pas du sexe, de leur sentiments, de ce qui. Quand c'est un peu. Quand c'est touche un peu les sentiments, le sexe, tout de suite, ils virent vers une langue étrangère, les intellectuels arabes. J'ai remarqué ça dans.
Ils se cachent.
Ils se cachent derrière une langue étrangère. Mais moi, j'ai lu des extraits de mon livre. Vous croyez que je peux le lire en arabe? Et là, je préfère mourir.
Vous auriez refusé de lire cette phrase. J'étais mouillée dès que j'arrivais chez lui. Cette phrase en français, vous pouvez la lire, mais pas en arabe.
Non, pas en arabe. Ouais. Je peux pas. Dans la vie quotidienne, on nous a appris que ce sont des mots qui sont sales, qui sont des insultes. Donc moi, j'ai écrit et je le dis dans le livre que je peux écrire ces mots, mais je pourrais jamais les utiliser dans ma. Mais maintenant, je m'en traîne peut-être.
Un petit training à la radio une fois par semaine, c'est ce que je vous prescris. Donc sinon, dans le quotidien, vous êtes 50-50 entre l'arabe et le français. Vous ouvrez un tiroir, celui de la préfecture, hop, c'est en français, celui de la colère, c'est en arabe. Comment ça fonctionne au quotidien?
Non, ça sort sans programmation. À la maison, chez moi, tout est mélangé, vraiment. On passe de l'arabe au français on passe par exemple d'une chaîne arabe à une chaîne française, à une chaîne au CNN, même dans la cuisine, parce que moi je sais pas faire la cuisine, donc on mange.
Comment? Polygame et ne sachant pas faire la cuisine.
J'ai pas le temps.
Vraiment. Il n'y a pas une petite fatwa qui traîne là dans vos parages, non, je vais me taire. Est-ce que vous jonglez avec l'arabe algérien de Souad Massi?
Ah, j'adore ça. Ouais. Parce que avec Souad, j'ai vu comment la langue arabe, on peut faire les plus belles chansons avec la langue arabe et comment elle chante et comment elle aussi elle se déplace entre arabe et français et
elle aussi c'est une exilée. Qu'est-ce qu'elle dit en un mot dans Yaraoui qu'on va écouter en sol majeur?
Bah, il faut mettre la chanson.
Ah, faut mettre la chanson, puis après vous traduisez. Ça marche comme ça avec Salwa El Naimi. C'est réussi.
L'histoire de la fille de l'ogresse. Je t'appelle. Je t'appelle. Chacun de nous a une histoire. Chacun dans son cœur, il a une histoire.
أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونملو كل حكايات. حكينا عالجنة حكينا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا. حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا. حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية. كل واحد منا في قلبه حكاية مدد ما تنقص من عندك كاين شفاء ولا بلاك. حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان. حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا. واحد منا في قلبه حكاية. كل واحد منا في قلبه حكاية.
Yaraoui, Swad Massi, folkeuse, guitariste et accessoirement algérienne, du miel pour les oreilles de notre invité Salwael Naimi, auteur arabe, c'est-à-dire pleine d'Ibn Arabi et d'orange amer, mais d'expression française, c'est-à-dire pleine de René Char, d'Edouard glissant sur la langue. La suite est en sol majeur.
Comment vivre en dictature? Quel est le mode d'emploi?
Je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi. Moi, je suis partie. Mon choix, c'était de partir. Peut-être c'était pas conscient que c'était pour ça. Mais mes camarades me disaient, il faut choisir. C'est-à-dire, tu pars, il faut bâtir le pays. Et moi, j'ai dit, je pars parce que je veux me bâtir. Il fallait faire un choix. Je dis pas que c'est la solution, mais c'était mon choix.
Vous étouffiez dans cette culture arabe qui pense nous et où il était interdit encore de penser je?
Non, moi non. Pas pour moi. Je tout fais pas dans la culture.
Pour vous, c'était pas interdit. Vous êtes autorisé, hein?
Non. Mais ça fait partie des clichés qu'on répète sur la culture arabe, que dans la culture arabe, on nous apprend pas à dire, il y a pas le je, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, s'il y a un je prononcé vraiment, c'est dans la poésie, dans tout, il faut lire les textes arabes. Donc moi, j'ai tout fait peut-être à cause d'une pression politique ou sociale que peut-être je sentais pas individuellement, mais c'était généralisé, c'était dans le pays. On peut quand même
parler de dictature des corps dans les pays arabes. Vous n'allez pas me dire le contraire,
mais
quand même.
Mais non, mais pas à ce point. C'est-à-dire, c'est aussi, moi j'étais en Syrie, peut-être on peut parler de ça, en Arabie Saoudite peut-être, et quand on, c'est-à-dire de l'extérieur, mais pas quand on entre à l'intérieur de la société, derrière les abayés, derrière les voiles. Mais moi, en Syrie, j'étais jamais voilée, mais il y avait
vous,
des...
Vous l'étiez peut-être intérieurement, enfin. Pourquoi non. Dites-vous que le sport national, c'est la dissimulation?
Ben, la dissimulation n'a rien à voir avec notre culture. C'est-à-dire, la dissimulation, c'est une attitude de résistance aussi. Parce que quand on je peux pas dire, par exemple, si je veux parler politique ouvertement, je peux pas. Je dissimule. Mm. Et quand je peux pas parler du sexe, je dissimule. C'est-à-dire, Ça, c'est une position. Non, mais dans toutes les sociétés, il y a dissimulation. Peut-être c'est beaucoup plus prononcé dans notre société arabe, mais c'est pas la culture arabe qui nous impose ça. C'est peut-être les régimes politiques.
C'est l'interprétation de certains textes qui fait qu'on peut aboutir à ça. Est-ce que s'attaquer à la littérature érotique, c'est un geste politique ou c'est juste un geste littéraire?
Sûrement. Non, mais il y a pas un acte qui est purement littéraire, ou l'écriture n'est pas purement littéraire. C'est aussi un acte politique. Il y a un critique qui a écrit. C'est un arabe qui a écrit. On peut remplacer le mot sexe dans le livre de Salwan Naimi par le mot liberté. Et donc c'est politique. C'est vraiment politique.
Vos parents viennent dîner à la maison. Que leur cuisinez-vous?
Je cuisine pas, je suis nulle, vraiment nulle.
Vous mettez les pieds sous la table.
J'achète
pendant que monsieur est derrière les fourneaux.
Non, c'est-à-dire si mon mari a le temps, il peut faire mieux que moi, mais moi je suis nulle en cuisine.
Donc les samosas au fromage et aux zaatar d'Alep.
Rien, moi je les mange au restaurant, j'adore ça, mais pas chez moi, je sais pas le faire.
Bon, épicurienne, mais avec des limites, hein, quand même. On va casser tout ça. Non, vous êtes une goûteuse. Vous êtes une paresseuse, c'est ça. Une lascive. On va casser tout ça avec une pointe de cynisme à la dandy, si j'ose dire, avec le Jacques Dutronc des années 60-70. Il est sur la platine. Vous avez choisi d'écouter Il est 5h, Paris s'éveille.
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est Paris, parce que c'est ma ville. Parce que quand je voyage, je me dis les derniers jours, toujours de mes voyages, je compte les jours pour rentrer. Je me dis, je rentre à Paris. J'ai vécu à Damas, mais je vis, ça fait longtemps, à Paris. J'aime cette ville. C'est la ville.
Et elle ressemble à cette chanson?
En partie, c'est plus beau. C'est toujours plus compliqué, les choses, c'est toujours plus complexe, et j'adore ça.
Jacques Dutronc, dans le programme de ça.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h.
n'ai pas sommeil.
Chanson idéale pour les belles endormies. Il est 5h, Paris s'éveille, Jacques Dutronc sur RFI, et c'est le Paris de Salwael Naïmi, arabe, syrienne et française, et surtout, surtout, auteur à la plume libertine, donc en sol majeur. La question se pose.
Si je vous demande de me réciter un poème, lequel vous vient à l'esprit?
Bah, le plus simple, c'est un poème que j'ai écrit. le titre, c'est « Pardon ». Quand je monte brusquement au ciel, Dieu me reçoit à la porte du paradis. Il me regarde comme s'il me voyait pour la première fois. T'as de beaux yeux, tu sais.
Et en arabe, ça donne quoi alors?
Ça donne « Ghufran ». عندما أصعد إلى السماء فجأة يستقبلني الرب على باب الجنة ينظر إلي وكأنه يراني للمرة الأولى لك عينان جميلتان هل تعلمين.
Vous savez, vous ressemblez vraiment à la phrase de Garance, Arletty dans Les Enfants du Paradis.
Ah là, ça c'est la
je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout, hein.
Oui, ben c'est pour ça que la phrase m'a parlé, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre.
Est-ce que ça a été si facile que ça dans le Damas des fins des années 60, on va dire, d'être une goûteuse de littérature érotique? Et ce sera ma dernière question.
Peut-être que pour moi ça a été facile, je ne sais pas. C'est-à-dire là, quand je vois pas des cages, j'étais pas dans une cage et j'étais pas liée, j'étais libre et je le suis toujours.
Shukran Salwael Naïmi. Je rappelle que La preuve par le miel, traduit en 17 langues, est sorti en France chez Robert Laffont.
En sol majeur, @rfi.fr.
Caroline Fillette, Marc Delouvrier, Guillaume Roux, Yasmine Chouaki. On revient demain.
Priorité santé.